Je vais te passer l'antenne tout de suite. À toi.
Eh ben, merci beaucoup Bernard. Eh ben, voilà, pour ce soir, on se retrouve, je l'ai présenté un petit peu cet après-midi, on a un plateau un petit peu d'exception, avec le conseiller technique régional Rémi Lecourt. Nous aurons le capitaine du Puy-Foot Rénal Xémon. Nous avons Stéphane Dieff, l'entraîneur de la future équipe professionnelle, ce qu'on espère tous. Et nous avons Vanessa Coste-Okolov, qui est coach sportif, puisqu'elle a un diplôme d'État, et puis aussi coach dans la vie de tous les jours, un peu plus auprès de chefs d'entreprise. Donc chacun aura la parole et va pouvoir se présenter. On va commencer par Rémi, puisque Rémi, c'est celui qu'on connaît un petit peu le moins, un ancien partenaire de formation du BE, et puis aujourd'hui, conseiller technique régional, un peu plus en charge de la formation des futurs techniciens. Alors Rémi, ben, merci de nous avoir rejoints, et donc explique-nous un petit peu ce que tu fais au sein de la Ligue LoRa.
Donc bonsoir à tous, très ravi d'être ici. Effectivement, conseiller technique régional, plutôt sur la formation des éducateurs, ça fait maintenant 5 ans, je m'occupe de différents niveaux de diplômes. Alors je m'occupe pas de tous les diplômes, mais j'interviens sur différents niveaux de diplômes. Les nouveaux diplômes fédéraux qui sont apparus il y a 3 ans maintenant, qui sont des diplômes bénévoles. Et puis j'interviens aussi sur le BMF apprentissage, où je suis responsable de l'antenne de Vichy. Et puis j'interviens aussi sur le brevet d'État de football, qui est basé à Lyon. Voilà, ce sont mes principales missions. Et puis à côté de ça, on a aussi des missions en lien avec le parcours de performance fédérale du jeune footballeur. Et j'ai cette année en charge les garçons U16 sur toute la ligue.
Ok, ben merci beaucoup Rémi. On a donc Stéphane Dieff qui passe actuellement son diplôme d'entraîneur professionnel et donc qui va nous parler aussi un petit peu de comment avant les matchs on peut préparer ses joueurs à une performance sportive sans trop leur faire perdre les pédales et qu'ils restent bien concentrés sur leur jeu.
De manière assez simple, j'ai envie de dire que déjà le match commence bien avant dans la semaine. Donc c'est de maîtriser au maximum ce qu'on est capable de mettre en place et ce qu'on souhaite mettre en place. C'est vrai que sur les avant-matchs, il peut y avoir une forme de pression, une certaine forme de pression qui monte. Et pour pas perdre les moyens, moi je m'attache surtout à parler de ce qu'on maîtrise en fait. Notre projet de jeu, nos connexions, voilà. Aller vraiment sur des choses assez simples et rationnelles parce que il y a beaucoup d'éléments autour qui viennent perturber la préparation d'un match et ces éléments-là, on les maîtrise pas nécessairement. Donc il faut essayer de les laisser un petit peu en dehors, juste les faire connaître aux joueurs pour appréhender un petit peu le match de la meilleure des manières, avec le moins d'inconnus possible, mais surtout en étant centré sur ce qu'on maîtrise et ce qu'on veut mettre en place.
Ok, est-ce que le rôle du capitaine, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un deuxième coach sur le terrain? Ça va nous permettre ensuite de transmettre la parole à Reynald. Est-ce que c'est un peu ton binôme, en quelque part?
Non, c'est pas mon binôme, c'est plus mon adjoint ou mes adjoints. Le joueur, il doit quand même rester connecté à sa performance, donc faut pas trop le polluer. Le capitaine, souvent, c'est un rôle qu'on a en soi ou qu'on n'a pas. C'est aussi une forme de caractère, être de s'occuper de soi tout en s'occupant des autres, être capable de, par contre, d'être le relais un petit peu des consignes du staff au sein de l'effectif pour les répéter avant le match, pendant la rencontre, être dans une réflexion peut-être plus collective que les autres joueurs. Voilà, c'est surtout comme ça, moi, que je le vois et que j'entends. Et puis, être fédérateur, évidemment, pour lier les joueurs les uns aux autres. Je pense que le capitaine, il a aussi cette fonction-là.
Ok, merci Stéphane. Ben, la transition est toute faite avec Reynald Xémon, qui est capable de débloquer les situations au meilleur moment, juste avant la mi-temps. Une petite reprise, là, barre, poteau, le ballon passe juste derrière la ligne. Autre le fait d'être buteur, quel est un petit peu ce rôle au sein de l'équipe du Puy-Foot 43 cette saison?
Non, mais c'est sûr que c'est déjà pour parler du but, comme vous l'avez dit, il vient au bon moment, parce que je pense qu'elle leur met un coup derrière la tête, juste avant la mi-temps. Maintenant, moi, je connais mon rôle, on va dire, de capitaine. Je suis un capitaine qui partage un peu avec tout le monde. Je discute avec tout le monde. Je suis ouvert à peu importe l'âge. Maintenant, je suis un des plus anciens du vestiaire. Je sais que le coach, il est pas dans le vestiaire autant que nous, les joueurs. Donc, c'est vrai que avoir un relais pour lui ou pour le staff dans le vestiaire, c'est important pour lui. Maintenant, c'est vrai que être capitaine, ça veut pas dire être tout le temps d'accord avec lui. Mais en tout cas, nous, les joueurs, moi, je suis quelqu'un qui prend pas la place, qui se dit pas, je suis le capitaine, donc j'ai le droit de tout faire, de dire tout ce que je veux, etc. J'essaie de rester le plus ouvert et le plus simple possible, comme je suis dans la vie quotidienne. Donc, je pense que, comme il l'a dit, c'est un rôle qui me convient parfaitement, quoi.
Il y a une question qui me vient un petit peu en tête. Est-ce que, des fois, il faut pas être un tout petit peu plus intelligent que les autres et savoir se taire, ne pas dire certaines choses à l'entraîneur, mais être un peu son relais, piquer un peu les joueurs pour qu'ils aient la meilleure performance et peut-être éviter quelques conflits qu'il pourrait y avoir. Est-ce qu'il y a une forme d'intelligence derrière ce rôle de capitaine?
Oui, après, il n'y a pas tout ce qui se dit dans notre vestiaire sort pas. On va pas se mentir, tout ce qui se passe entre joueurs, ça peut arriver qu'il y ait des malentendus sur le terrain ou des accrochages, ça c'est sûr. Maintenant, moi, je suis pas dans ce rôle-là de me dire je suis policier ou je dois rapporter quelque chose. Quand je vois que la situation, elle en a besoin, que je parle avec mon coéquipier, j'y vais tout simplement. J'y vais pas pour me dire ouais, il faut que
c'est une forme de coaching.
Un peu oui et non. C'est juste du se dire que le mec, il faut pas le perdre, parce que des frustrés dans le foot, il y en aura tout le temps. Malheureusement, il n'y a que 11 joueurs, et c'est pas nous les joueurs qui décidons, c'est le staff et le coach.
Est-ce que c'est ça le vrai rôle de leader, leadership? C'est toi, tu es le leader, mais tu fais de ceux qui sont à côté de toi aussi un leader pendant 90 minutes, 91, 92?
Oui, après, c'est vrai que sur le terrain, vous parlez du terrain, moi je suis assez bien placé, je trouve, je suis au milieu du terrain, je suis entre les défenseurs, le gardien ou les attaquants, donc c'est toujours plus simple pour moi de pouvoir... pouvoir, on va dire, communiquer avec eux. Et en plus de ça, j'ai une forme de, on va dire, depuis tout petit, j'ai cet aspect notion tactique qui me plaît depuis tout petit. Donc c'est clair que j'arrive à analyser un peu ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire pendant le match. Et surtout, j'arrive à me canaliser, on va dire, par rapport à mes coéquipiers, surtout au niveau de la frustration que... Après, peut-être c'est mon expérience aussi avec mon âge qui fait ça, mais c'est sûr que c'est important, oui.
Mais parfait, on ne sera pas trop juste, je pense, en termes de parité homme-femme. C'est pas grave, parce que Vanessa, elle a l'air vraiment cool et elle va accepter. De toute façon, elle n'a pas le choix et on va lui laisser se présenter. J'ai envie de dire un peu au départ comme coach de karaté, coach sportif et puis coach de plein de choses.
Allez, je prends la parité. Effectivement, alors coach sportif, pourquoi? Parce que je viens du milieu du sport. J'ai grandi sur les tatamis, mais littéralement, c'est là que j'ai appris à marcher par le karaté en premier. Et puis après, je suis arrivée au Puy. Donc, j'ai décidé de m'installer dans cette ville avec un environnement incroyable. Et là, je me suis éclatée en jujitsu. Et donc, j'ai fait un certain temps sur du haut niveau. Et à l'époque, quand j'étais dans le karaté, donc j'étais BE, j'entraînais des jeunes. Et pour moi, c'était vraiment, c'est ce que je retrouve là, en fait, hein, dans les propos, en préparant l'émission. C'est comment le sport, comment les valeurs, comment l'environnement, et ben, transforme la personne, finalement. Et comment on grandit avec ça? On grandit en tant que sportif, mais avant tout, on grandit dans la tête, on grandit dans le corps, par ses réactions, par ce qu'on vit. Enfin, il n'y a rien de plus fort qu'une émotion vécue dans le sport, quoi. C'est un truc de fou.
En préparant l'émission, tu me parlais justement un petit peu de la jeunesse, et que c'était aussi au niveau des plus jeunes qu'on commençait de faire de bons citoyens et des petits leaders et ainsi de suite. C'est à quel âge c'est le plus important d'arriver un peu à transmettre les quelques piliers qui sont importants pour toi?
Alors, je vais prendre un contre-pied. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Il y a des personnes qui sont réceptives ou pas. Et il y a des moments où on n'est pas tant réceptif parce qu'on a un âge, mais parce qu'on a quelqu'un en face de nous qui nous fait, encore une fois, vivre quelque chose. Qui réussit à faire passer son message. Et quand j'écoutais Reynald, je me disais, mais on est complètement là. On parlait, tu as tendu la perche, les leaders font des leaders. Et c'est ça, en fait. C'est, finalement, tout ce dont il a parlé juste avant, c'est une question de posture. c'est comment, moi, dans ma posture, je suis à un moment... En fait, il faut différencier la notion d'identité. Je suis qui? Voilà, moi, je m'appelle Vanessa, j'ai 27 ans. Allez, de toute façon, vous ne me direz pas le contraire.
Vous avez dit 22, mais bon, tu fais assez jeune.
C'est vraiment que de crédibilité. Ça, c'est mon identité. Après, ma posture, c'est qui je suis là maintenant. Ancienne coach sportive, aujourd'hui coach de dirigeants, spécialisée dans la prépa mentale, intelligence émotionnelle, etc. Et c'est la posture que j'ai là. Et toute la différence, justement, sur le terrain ou alors en amont du terrain, et ben, quelle posture on choisit. Et c'est là-dedans que grandit leadership. Parce que finalement, leadership, c'est quoi? C'est être responsable, c'est assumer, c'est rester fort dans la tempête, c'est devoir décider vite, et c'est porter aussi parfois la parole des autres. Quoi. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on fait le job, et puis on s'efface pour laisser aussi ses maîtres visibles qu'invisibles. Et là, si la décision collective, c'est ça, et ben très bien, moi, je porte la décision, j'adhère ou pas, mais par contre, je suis en solidarité complète. Et je trouve que là, il y a une notion très forte de posture et d'identité que tu nous as vraiment montré dans ce que tu faisais.
Merci Vanessa. Rémi, du coup, un petit peu au sein des formations, qu'est-ce qu'il en est un peu du mental? Comment ça se passe? Il y a des intervenants, il y a des coachs, il y a des psychologues, qu'est-ce qu'il y a un petit peu comme forme d'intervenant à la Ligue avec toi?
Alors, à la Ligue, sur les différentes formations, on aborde ce sujet, mais à mon sens, le mental fait partie d'un des quatre facteurs de la performance, et à mon sens, il est un petit peu, pas oublié, mais mis en retrait depuis longtemps. On essaye de corriger ça. Donc, on a des petits modules de formation à l'intérieur même d'une formation longue. On a des petits modules sur la confiance en soi, sur la gestion des émotions, sur la gestion des conflits. On essaye d'aborder ça avec nos jeunes stagiaires. Après, ils sont en apprentissage. Et pour eux, le meilleur, c'est quand même d'aller sur le terrain et puis éventuellement de se tromper. Parce que nous, on est beaucoup dans l'erreur pour leur permettre de grandir et de performer par la suite, de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai mal fait pour qu'ensuite je puisse le corriger. Donc, on a ces petits modules de formation à l'intérieur de nos différentes formations longues. Et puis, au niveau national, il y a une formation aussi d'optimisation de la performance, où là, on va un tout petit peu plus loin. On va un tout petit peu plus loin dans le rapport à l'individu, dans le rapport au collectif. Je pense que Steph aussi, dans sa formation, ils ont forcément des modules qui leur permettent de grandir aussi en tant que coach, parce que on apprend à tout âge. Et comme les joueurs et les coachs apprennent aussi à tout âge, et ils se trompent pour mieux performer ensuite.
Ok, écoute, merci pour cet éclairage. Moi, ce qui m'interpelle un petit peu aussi, quand je vais voir des matchs, ou quand j'ai entraîné, je voyais souvent des joueurs qui étaient bons à l'entraînement, et qui le jour du match, malheureusement, on dit c'est un joueur d'entraînement. Lui, par contre, à l'entraînement, il lève le pied, mais c'est un vrai joueur de match. Comment on fait, Stéphane Dief, pour aujourd'hui réussir sa meilleure performance le jour du match?
Très honnêtement, Rémi vient de me parler de la formation que je suis en train de suivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'attention portée aux notions de mental, leadership, management, mais aussi à approche des émotions. On le sait qu'après, parce qu'en fait, là, je parle, c'est plus l'entraîneur qui va parler, je vais changer de posture, finalement, c'est l'ancien joueur un petit peu qui se réfère à ce qu'il apprend aujourd'hui. Le coach apprend des choses aujourd'hui qu'il peut transposer à ce qu'il était quand il était joueur. Et il s'aperçoit, ce coach-là, quand il était joueur, finalement, il n'avait peut-être pas toujours les bons réflexes, les bons automatismes dans l'appréhension du match. Pour la simple et bonne raison que l'aspect mental était aujourd'hui, il n'est pas toujours mis énormément en avant, mais bien plus qu'il y a 15-20 ans en arrière, c'est indéniable. Cette notion-là, elle est en train de grandir, on voit son importance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses que je ferais certainement différemment, que j'apprendrais différemment. Moi, j'ai un suivi psychologique à côté de mon job, en fait, pour mieux me connaître, avoir les meilleures réactions. C'est des choses que j'ai appris avec le temps.
Si tu devais dire aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent, qui sont compétiteurs, si tu devais leur donner un conseil pour l'avant-match, ça serait quoi? Pour chasser un petit peu le doute, parce que on sait que souvent on se fait un peu le match, c'est un petit peu le danger qu'on voit au lieu de se voir en train de réussir, c'est un peu la projection mentale. qu'est-ce que tu dirais à tous ces jeunes qui ne sont pas professionnels, qui viennent vous voir ou vous encourager? Comment ils pourraient progresser?
Peut-être que Vanessa répondra mieux que moi à cette question-là, mais moi, je leur dirais surtout de s'intéresser à tout ce qui a un attrait à la psychologie et au mental, en fait, pour préparer les rencontres. Mais plutôt que de donner un conseil, je préférerais leur dire de s'intéresser à ça, d'être curieux, en fait, d'être curieux sur la force du cerveau, de ce qu'il peut apporter quand on essaye de l'entraîner, le contrôler, le préparer aussi au même titre que les jambes, finalement, et le reste du corps quand on est sportif.
Ok. Et on revient un petit peu sur la notion de leader avec Vanessa. On se disait que souvent, les bons leaders faisaient d'excellents leaders à leur côté. Comment ça se passe un peu cette transmission?
Tu m'autoriseras à compléter un petit peu le problème de...
Qu'est-ce que tu veux, t'es chez toi ici.
J'ai compris, de toute façon, je faisais toujours comme je voulais. De toute façon. il y a quelque chose qui est hyper important et que parfois, moi, j'ai jamais fait de foot, mais je l'ai vécu en tant qu'ancienne en compétitrice sur du haut niveau. Et parfois, on se focalise sur ce qu'on n'a pas, sur l'enjeu. Tu parlais de l'enjeu et il y a le jeu dans l'enjeu, en fait, ma place. Et on se focalise sur ce qui manque, sur ce qui peut louper. Et c'est là que notre énergie va. Et je trouve que s'il y a quelque chose vraiment d'essentiel à garder en tête, mais en fait, pour tout dans la vie, c'est que où le focus va, l'énergie va. Et quand on garde le focus sur tout ce qu'on a déjà en bagage, sur tout ce qu'on a déjà réussi, et mince, en fait, si ça marchait. On a peur que ça marche pas, mais si. Parfois, il y a même des risques, en fait, que ça marche, et ça peut faire peur aussi. Donc, de vraiment garder cette idée, où le focus va, l'énergie va, et pas ce qui manque, mais sur ce qu'on a déjà, parce qu'en fait, il y a plein de jeunes qui sont hyper talentueux, il y a plein de gens dans la vie qui sont talentueux, et qui oublient qu'ils le sont.
Ok, bah écoute... On va revenir rapidement vers toi, de toute façon. Moi, j'ai envie de demander un petit peu à Reynald, quand on est un petit peu le relais du coach, comment on fait pour arriver aussi à se concentrer sur son propre jeu de récupérateur, de relayeur, sans que la place du capitaine prenne trop d'importance?
Avant tout, parce que quand je suis sur le terrain, je me focalise uniquement sur la performance de l'équipe et bien sûr de la mienne, parce que ça reste quand même aussi un sport collectif, mais la performance individuelle est hyper importante parce qu'il y a de la concurrence. Donc c'est important de pouvoir performer. Maintenant, comme je l'ai dit, je suis focus dans mon match. Je rebondis un peu sur votre question précédente par rapport au coach. Il y en a, ils se mettent des routines, par exemple, pour pouvoir performer. Moi, je suis quelqu'un qui n'en a pas. Mais... quand je rentre sur un terrain, je sais que je me dis pas « ouais, je vais louper ça ». Je me dis « bah, je vais le réussir ». Et je pense que c'est là où il faut que les jeunes, ou peu importe qui, il ne faut pas qu'ils se mettent des barrières ou des freins. Ils doivent se dire « mon objectif aujourd'hui, par exemple moi qui est récupérateur, je vais en récupérer 6 des ballons. Bah, il faut que cet objectif-là, bah, je l'ai ». Et après, petit à petit, on se libère et le match, en fait... il se passe parfaitement, quoi.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé que face à Stéphane, qui peut-être a un coaching, imaginons sur une situation, ce coaching peut être un peu routinier, comme certains joueurs et tout, que toi tu sentes à l'intérieur du jeu quelque chose de différent, que tu dis « putain, ça me prend la tête, il faut faire différemment, il faut que j'agisse vite, il faut que je pique ceux qui sont à côté de moi, parce qu'on faut que ça aille plus vite ».
J'irai pas jusqu'à là. Après, c'est les séances de la semaine, elles sont tout le temps, on va dire, à peu près similaires, mais basées sur l'adversaire contre lequel on joue. Donc ça veut dire que c'est pas vraiment une routine. On sait ce qu'on va préparer, mais la semaine, on sait quel match on va jouer et à quel moment et comment il faut les jouer, l'équipe adverse. Donc en soi, non. Mais après, quand je suis sur le terrain, évidemment, si demain... le coach, il nous dit globalement faut passer que par les côtés et on voit que l'équipe adverse elle bloque les côtés, ben on est les acteurs principaux. C'est nous sur le terrain qui avons le ballon. Des fois, c'est vrai que même par exemple à Dijon, là récemment, on avait travaillé un aspect, on va dire, que leur défense, on fallait piquer avec nos relayeurs avec une course cassée pour mettre un ballon dans le dos. À un moment donné, je l'ai tenté, il s'est avéré que mon coéquipier était hors jeu, le coach, il a dit passer par les côtés. Je sais que je lui ai répondu directement, mais c'est pas pour autant que je me dis qu'il l'a mal pris ou moi j'ai mal fait la chose. Je me dis, c'est une situation comme une autre. Mais si elle avait été réussie, on m'aurait dit bravo. Donc en soi, on a des consignes, mais on reste focus sur le plan de jeu. Mais après, les acteurs, vous savez, les images, ça reste des images qu'on a préparées, ça reste qu'on a préparé, mais c'est le terrain qui parle. Donc en soi, le coach, il a vraiment ces petites notions tactiques sur le côté qui va donner deux, trois petits mots, mais on n'est pas focalisé complètement sur ce qu'il dit pendant le match. Par exemple, quand on rentre à la mi-temps, là oui, là c'est le moment de couper et d'écouter ce qu'il dit. Mais pendant le match, on va entendre un mot sur deux, s'il y a du monde autour, etc. Et vu qu'on est focus, des fois on prend, des fois on prend pas, quoi.
T'es en train de bonifier l'émission, je te le dis. Donc on va rendre la parole au président.
Non, je voulais compléter un petit peu ce que dit Rénal, parce que c'est vrai que nous, dans notre fonction d'entraîneur, on a envie parfois de faire passer énormément de messages aux joueurs, et faut pas oublier une chose, c'est que les acteurs du jeu, ça reste eux, que les décisions, ils doivent les prendre rapidement, et surtout, ce qu'on doit s'attacher à faire, c'est les préparer à prendre des bonnes décisions. Mais après, c'est bien eux qui décident, cette forme de liberté, elle est essentielle. Moi, en tous les cas, j'essaye de la préserver au maximum, à partir du moment où le cadre est tracé et à peu près respecté. À l'intérieur de ce cadre-là, les joueurs ont évidemment une liberté, ils doivent aussi faire parler leur personnalité en tant que joueur pour parce qu'à un moment donné, il faut surprendre. Tout ne s'écrit pas à l'avance dans un match de foot et dans le sport en général.
On va repasser la parole à la leader numéro 1. Quels sont les piliers véritables pour toi, Vanessa, de la réussite en sport ou dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'il faut être pour être costaud dans sa tête au quotidien?
Alors, je vais l'amener sur le terrain un peu sportif, mais qui peut se reproduire partout, stratégie, technique, mentale, je dirais. Pour moi, il y a vraiment...
Un peu plus doucement.
La stratégie. Quelle stratégie on met en place, pour quel objectif et pourquoi? Qu'est-ce qui nous anime vraiment dans le fond pour le faire avec cœur et pas le faire simplement avec la tête? La technique, qu'est-ce qu'on met c'est votre technique sportive, c'est votre technique de jeu, c'est la... Tout l'hygiène de vie aussi qu'il va y avoir autour, parce que qui dit sport, dit nourriture, alimentation, enfin, et je parle pas que diététique, c'est vraiment de la nutrition, là on va loin parce que ça passe par ça, la réussite passe par aussi par l'alimentation. Et puis derrière, c'est le mental. Donc pour moi, c'est vraiment ces trois points-là qui sont les pieds de la réussite. Et ça permet aussi de, finalement, et je fais le lien avec la formation, mais c'est des matrices finalement qui sont simples. J'ai ça en tête. Très bien, je dois travailler quoi? Ma stratégie, mon technique et mon mental. Et est-ce que ma stratégie, elle est claire? Qu'est-ce que je dois avoir techniquement? Comment je dois m'organiser? C'est quoi les outils? C'est quoi les relations? Dans la technique, je vais mettre aussi l'environnement qu'on va avoir. Et derrière, dans quel état d'esprit j'y vais? Sur quoi je mets mon focus? Et il y a c'était vraiment chouette de voir derrière le téléphone, en fait, ce qui s'est passé entre le joueur et son coach, parce qu'on s'en a confiance. Et c'est aussi dans le mental, la force de la confiance, et en soi, mais dans son projet et dans ceux qui nous entourent. Parfois, on veut gérer, il y a une forme de contrôle qui se met un peu sur les choses, on voudrait que les personnes fassent comme on voudrait pour aller dans le sens. Et en fait, à partir du moment où on donne vraiment sa confiance, que l'autre le perçoit, et ça ouvre des portes énormes. On se laisse porter parce qu'il y a l'autre qui est là et qui nous dit « vas-y, quoi ». Mais les yeux dans les yeux, « vas-y, je te fais confiance ». Et tout ça se travaille sur du long cours, avec accepter les échecs, comme tu as dit, accepter que ça se plante, mais c'est que l'image. Donc finalement, je serais intéressée de voir justement sur ces points-là de la réussite, de voir comment le formateur joue cette carte-là aussi.
Moi, j'avais envie de lui parler justement un petit peu l'importance du mental dans les performances, mais j'ai une idée souvent qui m'est venue, c'est on parle des fois des joueurs talentueux et qui se reposent sur leur talent. Est-ce que le talent, ça peut être un frein à la performance, Rémi Lecourt?
Alors, j'ai travaillé plus de 10 ans dans un pôle espoir avec des garçons de 13 et 14 ans, et force est de constater que ceux qui ressortent et qui ont embrassé une carrière de haut niveau, c'était pas forcément à la base les plus talentueux, mais ceux qui ont une endurance mentale peut-être plus importante que les autres, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont compris qu'il ne fallait pas être performant uniquement sur une séance ou sur un match, mais sur plusieurs séances et sur plusieurs matchs. Et ça fait toutes les différences. À niveau égal, c'est le mental qui va faire la différence. Donc forcément, c'est quelque chose d'important.
souvent on parle de remise en question, on parle d'un côté de remise en question, et puis d'arriver à reproduire les mêmes performances régulièrement. Comment c'est la confiance qui fait la différence?
Ouais, je pense que c'est la confiance, c'est le plaisir aussi qu'on trouve dans le jeu. Aujourd'hui, moi, si j'ai un message à faire passer à tous les éducateurs, c'est qu'on parle de plus en plus de structurer et de cadrer les séances. On rajoute un nombre de séances pour faire comme ce qui se passe au-dessus. Moi, je suis pas toujours très enclin à faire ça parce que je trouve on empêche l'initiative. Donc, rajouter des séances, oui, mais peut-être faire des séances différentes à ce moment-là pour générer le plaisir. Si on cadre, on ne sait pas ce que le joueur il fait dans sa vie de tous les jours. On ne sait pas ce qui se passe dans sa vie de tous les jours. Donc, quand il vient sur un terrain de foot, c'est aussi pour prendre du plaisir. Et ça, des fois, on l'oublie. On veut tout le temps structurer, cadrer de la première à la dernière minute. Et ces espaces de liberté, ils n'existent plus aujourd'hui. Donc, il faut, moi, je pense que si on veut rajouter des séances, c'est peut-être faire une activité footballistique, mais différente. Et ça, c'est forcément valable dans le milieu amateur, mais aussi, pourquoi pas, dans un milieu semi-professionnel, voire professionnel.
Ok, bah écoute, là, le niveau se maintient, c'est vraiment agréable. Alors, Steph, tu vas nous parler un petit peu, en tant que coach, c'est quoi la clé de la réussite pour être un bon coach et faire bien passer ses messages? Est-ce qu'il faut se connaître presque par cœur?
Aussi connaître les autres. Parce que se connaître soi, c'est vrai que ça permet d'activer certainement les bonnes formules.
Il faut parfois s'oublier
sur les bons moments. S'oublier, je sais pas. Je pense que le rôle, la posture. On parlait de la posture tout à l'heure. Elle est importante. On peut pas des fois se laisser aller. On peut aussi manquer des choses. Voilà. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'essayer de bien cibler son groupe et puis de lui donner une vision commune. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'envisage mon métier en tous les cas. D'emmener tout le monde dans un projet commun, dans la même histoire, sur le même bateau. Et je pense que le travail en amont dans le recrutement est essentiel et prépondérant. Être juste dans les premiers contacts avec les joueurs, leur dire ce qu'on va faire, comment avec eux. Évidemment, il y a la concurrence, les temps de jeu, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Mais par contre, leur parler de comment on travaille, comment on veut les faire évoluer, il faut un petit peu s'intéresser quand même à l'autre, même si après, c'est toujours pour moi, en tous les cas, le projet collectif qui doit l'emporter et que chaque individu du groupe doit se retrouver à proche distance du projet commun. J'ai cette image souvent, je dis, quand vous tendez la main, on doit tomber sur le projet commun. En général, tout le monde doit être autour d'une vision commune pour s'entendre.
Ok, moi j'ai aussi une autre petite idée qui m'est venue tout à l'heure et que je voulais proposer à Reynald. Michel Platini, c'est pas ton époque, c'est certes, c'est plus la mienne en tant que supporter, mais il disait, pour être un très bon footballeur et réussir sa performance, il faut être capable d'être acteur de son jeu, ne pas le vivre trop intensément, mais plutôt être comme s'il était dans la tribune et qu'il se voyait en train de jouer, c'est-à-dire prendre les informations avant les autres. Comment on fait pour être supporter un peu de son propre jeu?
Franchement, c'est difficile à expliquer. Après, je pourrais pas me comparer à Platini, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais je peux pas. Maintenant,
tu es le Platini de la sélection albanaise?
Non, ou pas du tout, non. C'est loin. Pour l'instant, c'est un peu trop loin pour moi.
Ça va arriver, on est des porte-bonheur ici.
On verra. J'espère bien, pourquoi pas y retourner. C'est sûr qu'on a y goûté, on veut y retourner. Mais bon, ça, c'est étape par étape, on va dire. Là, je me concentre sur le puits, donc on verra plus tard. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai que moi j'appelle ça la vista un peu. C'est prendre des informations même quand on n'a pas le ballon, toujours rester en mouvement. J'aime bien ce mot et je fais référence aussi au football américain, le quarterback un peu. Bon, il travaille beaucoup sa nuque, etc. Et moi j'estime que à mon poste c'est essentiel de pouvoir visualiser, même quand on n'a pas le ballon, essayer de voir un peu plus loin que la ligne devant ou derrière nous, pour pouvoir, un peu comme aux échecs, essayer de déplacer les pions, enfin c'est pas des pions en l'occurrence, c'est le ballon et les joueurs, mais c'est vrai que avoir ce petit temps d'avance, c'est ce qui fait, on va dire, gagner des petites secondes, des petits temps de passe ou des, on va dire, le bloc peut avancer, etc. Donc c'est sûr que pour moi ça regroupe vraiment vraiment ça, c'est la vista quoi avant tout quoi.
Est-ce que le capitaine il est là pour transmettre son expérience aussi sur le terrain?
Non, pas forcément. Moi, comme je vous ai dit, je suis pas un capitaine qui se considère comme le capitaine à tout prix. Je suis quelqu'un qui, comme je vous ai dit juste avant, j'aime bien donner de l'importance à tout le monde. Pour moi, je suis égal à tous mes coéquipiers. C'est pas parce que aujourd'hui je suis capitaine, je veux dire que demain je peux me permettre de faire des choses que eux ils pourront pas faire. Donc, non, pour moi, ce brassard, il signifie beaucoup de choses, mais il signifie pas grand-chose, on va dire, en soi, par rapport à ma prestance ou comment je dois réagir vis-à-vis du groupe ou du staff. Je suis un simple joueur, comme les autres. Maintenant, j'essaye de rendre la confiance que le staff et le coach m'a donné en ayant ce rôle. Et j'espère, par rapport à ce brassard-là, j'espère que je le rends bien, c'est tout. Après, je me focalise pas vraiment sur ce que j'ai sur le bras ou pas.
Ok. Ouais. Vanessa, tu vas avoir une question à laquelle tu t'attends pas, évidemment, parce que vu que tu es une bonne coach, tu dois t'adapter plus vite que nous. Il vient de parler de prestance. Est-ce que c'est pas une valeur forte, la prestance du coach, le comportement face à ceux qui sont autour de lui? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'être acteur un petit peu face à son public quand on est coach?
Quand on est coach ou quand on est joueur?
Quand on est coach, quand on est là pour transmettre un message, est-ce qu'on se met pas un peu dans la peau d'un acteur qui veut transmettre quelque chose et qui a besoin de cette prestance pour que les autres boivent ses paroles en quelque part?
Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a cette prestance et c'est ce que j'appelais tout à l'heure la posture. C'est faire un acteur, on n'a jamais en doute son jeu, parce qu'à un moment, il se tient comme, il parle comme, et finalement, le corps retrouve la réalité du vécu à l'intérieur. Il prend confiance, parce qu'aussi, on se redresse parfois, ça peut le prendre dans l'autre sens. Et cette prestance-là, avec ce que tu disais tout à l'heure, et pour la remarque que tu m'avais amorcée tout à l'heure sur cette question, les leaders font des leaders, et je crois que Reynald, il nous en fait la démonstration, en fait, il s'efface, et c'est parce que lui se comporte comme ça, il a une exemplarité, et qu'on peut attendre, en fait, dans le haut niveau, et qu'on peut attendre après de n'importe quel poste à responsabilité, c'est que, ben, il est ni plus ni moins, il est égal, mais il cherche à relever les standards. Et parce que lui relève les standards, et ben, les autres, ils vont faire pareil, et comme il est égal, et ben, tout le monde va remonter. Et là, on a un jeu qui s'élève, mais qui va s'élever dans la posture, dans la prestance, comme tu dis. Et c'est, enfin, j'imagine, en tant que coach, quand on voit ça aussi de l'extérieur, en tant que formateur, qu'on voit que tout le monde monte vers le haut, ben, ça force aussi tout le monde à monter et à élever ses standards pour pouvoir suivre et donner encore le meilleur de soi.
Est-ce que quand on a fait, par exemple, une carrière de bon joueur, de leader, d'excellent coach, est-ce que ça facilite un bon chef d'entreprise, un bon coach au sein de... Est-ce qu'il y a des compétences transversales entre un bon coach sportif et un bon coach dans une entreprise autre que sportive?
Je pense que ça ramène à beaucoup d'humilité et à de la simplicité. Parce que quand on passe par tout ça, on passe aussi par toutes les difficultés qui vont avec. Et au fait, se dire « je suis un chercheur de solutions permanent ». Et je ne suis pas celui qui sait, je suis seulement qui a expérimenté et qui continue d'expérimenter. Donc effectivement, c'est des compétences, mais une compétence, on la voit dans un contexte. Et parfois, on est très bon dans un contexte et on le transpose dans un autre et boum, on s'effondre. Alors que quand on dit, ma force, c'est de trouver des solutions. Ma force, c'est de prendre avec simplicité, de se dire, ce chemin, je l'ai déjà fait dans un endroit et en fait, je suis capable de le transposer. Les choses roulent.
Stéphane, tu me fais penser... Je ne sais pas pourquoi, depuis un moment, à Eric Cantona, qui était un leader sur le terrain, qui avait un leadership incroyable, des fois sans parler, des fois en faisant une prise de karaté à un spectateur qui lui cassait les bonbons. Est-ce que tu te verrais plus tard dans une autre forme de coach, chef d'entreprise, une fois que ta carrière d'entraîneur, tu sentiras que tu auras fait le tour? Est-ce qu'on a droit à une deuxième carrière?
Moi, je l'ai déjà eu, ma deuxième carrière, parce que j'ai déjà été entrepreneur, en fait. Donc,
t'es un bon entrepreneur, quand même.
Ça marchait, dans tous les cas. Avec mes collègues, ça marchait très bien. Voilà. Et j'ai fait le choix, ensuite, de revenir vers
ton premier
amour. Non, me concentrer totalement au football, exactement. Mais évidemment qu'il y a des compétences transverses. J'irai de l'humain, de toute façon. Que ce soit sur un terrain de foot ou dans une entreprise, et évidemment, le contexte peut changer. Il y aura toujours des choses à adapter, mais il y a aussi des choses des recettes qui peuvent fonctionner à un endroit puis à un autre en essayant de les adapter, évidemment, de la meilleure des manières. Je voulais revenir sur la notion. Je dis souvent ça à mes joueurs quand je leur explique des choses. Je pense qu'on est à peu près tous cortiqués pareil, je leur dis. Mais la différence entre vous et moi, c'est que moi aujourd'hui j'ai 48 ans et vous en avez 25. Donc je suis peut-être pas plus intelligent que vous, mais je reviens à ce que disait Vanessa tout à l'heure sur la notion d'expérience, de moments vécus, donc qu'on a en nous et qu'on arrive à ressortir en fonction pour s'adapter à la situation actuelle. Et je leur dis simplement qu'en fait, je suis un peu plus vieux qu'eux, donc j'ai vécu par la force des choses beaucoup plus de choses qu'eux, et qu'à certains moments, il y a des choses, et ben on les sent parce que elles ont été, elles coulent en notre fort intérieur. Donc voilà. Je voulais revenir sur cette petite notion-là parce que moi, elle fait référence à quelque chose que je parle des fois avec mes joueurs.
Ok. Moi, j'ai envie de te parler un petit peu des fois de ton rôle de coach au puits. Moi, je commente les matchs. J'ai la chance d'être en haut. On voit vachement plus de choses d'en haut hein, par rapport à quand je coachais. Des fois, je te vois disparaître assis tranquillement. Et souvent, dans les 20 dernières minutes, comme si tu sentais que c'était le money time qui arrivait, tu te transcendes un peu, tu piétines à droite, à gauche, et on sent que c'est là où tu t'envoies tout le message à ton équipe pour qu'elle gagne.
C'est marrant parce que ça fait partie un petit peu des choses que... C'est vrai que je vis le match un petit peu comme ça, entre temps faible, temps fort, durant le match, en alternance, on va dire. Mais c'est vrai que sur la fin de match, c'est aussi que c'est dur pour les joueurs. Donc j'ai besoin, et peut-être un peu pour moi, je sais pas si c'est pour me rassurer, mais peut-être un peu pour moi, mais aussi beaucoup pour eux, parce que je sais que les efforts qu'on leur demande sont conséquents, et que d'entendre quelqu'un derrière soi, quand ça devient dur à la fin, c'est important. Donc j'essaye de jouer mon rôle aussi, d'être un petit peu acteur à leur côté à un moment donné, à ma façon évidemment, qui est totalement différente de la leur. Pour que le niveau d'exigence reste quand la lucidité baisse à cause des efforts répétés. Je pense qu'ils ont besoin de ce soutien. En tous les cas, je le vois et je l'envisage un peu comme ça.
On passera la parole à Rémi, qui était capitaine respecté dans son club des Martres de Verre. Est-ce qu'il faut, en tant que coach, un petit peu sur la touche, est-ce qu'il faut avoir du vice avec le corps arbitral? Est-ce que dans le coaching, il y a aussi une façon de se mettre les arbitres avec soi? Est-ce que c'est un coaching un peu, pas tordu, mais voilà, on veut gagner, et en face, t'as l'autre, tu l'entends dire des trucs à l'arbitre, ça te prend un peu, ça te monte les nerfs. Comment il faut gérer ça? Et un petit peu, et puis c'est Rémi qui complétera.
Non, mais il y a forcément une influence à avoir sur le corps arbitral, comme on doit avoir sur le jeu. Après, souvent dans la forme, j'ai pas toujours été un exemple, malheureusement, mais je tends à le devenir. Voilà, je me suis bien assagi. Je fais passer les messages avec beaucoup plus de tact, on va dire. Mais évidemment que le coach a aussi son petit rôle à jouer là-dessus. Ça fait partie du deal, à un moment donné, dans un match, d'essayer de tirer un petit peu la couverture à soi. Et je dis souvent aux joueurs, justement, de ne pas le faire. Parce que un joueur en tribune, c'est toujours plus embêtant qu'un coach, pour moi.
Avec Rémi, on va quand même... Je suis obligé, j'arrive pas à faire d'émission sans parler de Saint-Julien-Chapteuil et ton collègue Christophe Kioch. Tu me disais qu'avant les matchs, et donc là, il y a un rôle de leader à avoir, quand tu te retrouvais dans le vestiaire de l'arbitre à côté de lui, tu sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui allait être plus difficile qu'à d'autres endroits. Tu nous expliques un petit peu ce qui peut se passer dans un vestiaire avec l'autre capitaine et l'arbitre au milieu.
Ouais, c'est une lutte d'influence. Il y a des capitaines qui sont, s'ils sont capitaines, c'est qu'il y a des raisons. C'est souvent des leaders dans leur groupe, et puis il y a ceux aussi qui en imposent de par leur prestance. Christophe était de cela, donc Moi, je connaissais pas trop, mais quand je le voyais dans le vestiaire de l'arbitre avant le match, je savais qu'on allait passer un moment compliqué, surtout à Saint-Julien. Quand c'était au Mort, c'était un peu différent parce que on arrivait à se faire respecter davantage. Mais à Saint-Julien, c'est sûr que c'était pas forcément évident.
Bon, Vanessa, ma feuille est blanche. On va t'accorder le mot de la fin pour nous résumer un petit peu comment tu as vécu à la fois cette expérience au milieu de quatre garçons et comment les petites consignes que tu donnerais à ceux qui nous écoutent pour se lancer dans le coaching et s'occuper des autres et partager ce rôle de leadership un petit peu au quotidien pour améliorer le monde, j'ai envie de dire.
J'aime bien cette phrase « pour améliorer le monde ». Ça peut faire très cliché, mais en fait, c'est vrai. C'est qu'il n'y a pas une plus belle émotion que celle vécue dans le sport ou dans une passion. Il n'y a pas une plus belle relation que celle qui est vécue quand elle est équilibrée ou quand on va tous ensemble vers un même but. Et c'est vrai que ça, c'est les clés du coaching. Tu as évoqué tout à l'heure bien se connaître, mais avant tout connaître les autres. Donc c'est vrai que quelqu'un qui voudrait découvrir ça, avant tout, il doit aimer les gens. Enfin, on se met au service des personnes avec lesquelles et pour lesquelles on travaille, comme un entraîneur, comme tous ceux qui sont dans le milieu associatif, dans le sport, ils se mettent au service, c'est des bénévoles, ils on parle avant, c'est les personnes de l'ombre. Donc avant tout, c'est aimer ce qu'on fait, aimer ce pourquoi on le fait, s'intéresser, cette curiosité à avoir. N'importe quoi est transposable en fait à n'importe quel domaine. Enfin, j'avais un formateur qui faisait tout est coaching. N'importe quelle situation peut être coaching en fait. Aujourd'hui, on a à apprendre. On pourra faire un débrief de ça et de dire en quoi ça nous a fait grandir, etc. Donc, je trouve qu'on a une belle démonstration de comment prendre ses responsabilités, comment être soi, ça fait grandir les autres. Et que finalement, le sport remet encore plein de personnes autour de la table. Et je suis ravie d'en être ce soir.
Et une dernière question, tu n'es pas encore partie. On dit que les bons coachs, c'est ceux qui aiment leurs joueurs. Comment on fait pour aimer un joueur qui ne fait pas ce qu'on lui demande et qui, des fois, fait un peu sa forte tête et qui ne respecterait pas les consignes? Qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu en tant que coach? Comment on peut gérer ces situations avec un maximum de pertinence?
Donc, c'est là que je dis pas lui mettre un coup de pied au cul. Ça, on lui met pas un coup de pied au cul, on est pédagogue, très fort.
On traite les façons en douceur.
D'accord, bon, ok, je vais les remarquer.
Avec des mots forts.
Moi, je pense qu'avant tout, il faut aimer, mais aimer la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle n'est pas. Parce que dans ce qu'elle n'est pas, elle va aussi venir nous chercher. Et quand on a quelqu'un en face de toi qui dit non, je ne ferai pas ça, première des choses, c'est qu'est-ce que ça t'apprend sur toi, sur ta propre réaction, comment toi, ça te fait grandir. Et utiliser ça pour finalement, si tu passes pas par la fenêtre... passe par la porte et si ça marche pas non plus, et tu reconstruis une fenêtre. Et au contraire...
Tu rentres pas par la serrure.
Ouais, ça marche dans l'Alice au Pays des Merveilles, ça. mais c'est pas dans le foot. Mais en tout cas, il y a toujours une solution, en fait. Et finalement, c'est que tu as peut-être un récalcitrant. Et si les récalcitrants, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé. On parlait de besoin, d'émotion. C'est qu'il y a un mot qui n'est pas passé ou c'est que cette personne-là, elle a quelque chose à exprimer à sa façon. C'est pas forcément un désaccord de fond de match, c'est peut-être un besoin d'être entendu différemment, c'est peut-être un besoin d'être vu différemment. Donc parfois, faut aller plus loin que le sommet de l'iceberg, descendre un peu, creuser, parce que c'est pas parce qu'on a mal à l'épaule, au genou, etc., qu'en fait, le vrai sujet, c'est qu'on a mal au doigt. Le problème, il n'est pas toujours où on pense qu'il est.
On n'a pas fini, parce que moi, je suis bien, j'ai encore envie de rester un peu, sauf si, de toute façon, Manu, tu auras le temps de préparer la troisième mi-temps chez toi, c'est bon. Je vais demander à Reynald comment on... Dans un vestiaire, souvent, le coach, quand j'étais coach, on me disait, dans les formations, il faut aussi que tu identifies tes leaders négatifs. Parce que s'ils prennent le pas sur ton vestiaire, tu passeras pas l'hiver. Alors, si tu t'en rends compte à l'automne, c'est bien. Mais bon, Reynald, est-ce que ça arrive des fois que tu as des mecs qui tirent un peu au flanc, qui veulent lancer un truc à Dieff, ils nous cassent les bonbons, ils font chier, son jeu, il nous plaît pas. Qu'est-ce qu'on fait face à ces joueurs? Peut-être pas au pur anglais, ça peut être en sélection albanaise, ça peut être dans d'autres clubs où t'es passé. Comment t'as géré des fois ces situations en tant que coéquipier ou en tant que capitaine est-ce que tu as vécu ça?
Oui, forcément, il y a toujours des désaccords avec avec un coach ou autre. Moi, je vais parler de moi-même parce que j'aime pas parler des autres dans le négatif ou autre. Donc,
ça t'est arrivé d'être toi-même leader négatif ou pas?
Non, pas leader négatif, mais me renfermer plus sur moi-même, on va dire. En fait, ça se passait pas très bien avec un coach. Du coup, ça a joué sur ma vie en dehors du foot. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais en fait, Vanessa le disait tout à l'heure, c'est que c'est lié en fait. Le quotidien, il est lié aussi à notre métier. Donc, si demain je suis pas bien en dehors du foot, ça se ressentira au foot et inversement. Donc, à un moment donné, moi-même, j'ai vécu ça. J'ai décidé que les problèmes du foot resteront au foot et les problèmes de la maison resteront à la maison. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu avoir un autre regard et tourner la situation en ma faveur. Maintenant, oui, c'est vrai que des fois, il y en a, ils arrivent à attirer cette négativité autour d'eux et la transmettre. Mais comme je vous le disais, moi, j'essaye, en tant que capitaine maintenant, un peu plus au puits, depuis que je suis capitaine, j'essaye de comme je discute un peu avec tout le monde, je vois un peu, je connais plus les personnes, vu qu'on partage notre quotidien ensemble, je vois comment la personne, elle est. Donc des fois, c'est vrai que ça m'arrive d'aller lui parler. Maintenant, je suis, comme je l'ai dit, un simple joueur. Je suis ni son père, ni son éducateur, ni son coach. Donc à un moment donné, c'est une grande personne. Si elle comprend pas, il y a la hiérarchie et plus haut, c'est eux qui prendront les décisions. Mais maintenant, c'est clair que il y en a, ils arrivent à se faire influencer par certains, alors que malheureusement, ça ne devrait pas arriver, surtout à un certain âge, mais ça arrive toujours et ça arrivera toujours parce que il y a le fait de la compétition, il y a le fait de pas jouer, il y en a, ils jouent moins que d'autres. Donc il y a plein de facteurs. Mais maintenant, je sais pas comment vous l'expliquer parce que moi, je suis pas une personne comme ça. J'ai pas envie de, quand j'ai un souci, j'aime bien le garder pour moi. Donc j'essaie pas de le montrer aux gens. Donc je peux pas me mettre à leur place plus que ça.
Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir un coéquipier qui te pompe ton énergie et d'avoir envie de dire au coach, écoute, j'ai essayé de faire passer ton message une fois, deux fois, prends le relais, faites quelque chose parce que sinon ça va tourner pas au vinaigre, mais il me prend la tête.
Non, parce que j'ai jamais mal parlé d'un coéquipier et je le ferai jamais. Ça c'est ma ligne directrice. Si j'ai un souci avec une personne, je le réglerai moi-même, bien sûr. Sans karaté ou autre, parce que je sais pas.
Si t'es pas d'accord avec moi, tu vas pas le régler avec elle, tu vas lui laisser quand même avoir le dernier mot, je pense.
Bah, c'est sûr. Forcément. Elle a plus de bagages techniques au niveau armature que moi, donc voilà, plus d'expérience. Donc, mais je vais discuter parce que, comme je le dis souvent, on est des hommes. On reste des hommes et la parole, c'est ce qu'il y a de plus vrai, on va dire. Et tout doit se passer dans le respect. Donc maintenant, si demain j'ai un problème avec peu importe un joueur, je vais en discuter. Et ça m'est déjà arrivé sur les saisons précédentes où il y a eu un petit accrochage à l'entraînement. J'en ai discuté avec la personne concernée. Au final, il avait mal perçu les choses. Moi, pareil. On a fini par en discuter. Et au final,
C'est le bon sens qui doit l'emporter.
Exactement, surtout parce qu'on vit tous ensemble. On a tous un objectif commun, même si on a des objectifs individuels. Mais comme le coach l'a dit, l'objectif collectif doit être notre priorité.
Vanessa, le mot de la fin, cette fois, il est pour toi. Comment on fait pour être une femme forte aujourd'hui au milieu des hommes? Une femme peut-elle coacher une équipe de foot? Il y avait Corinne Diac qui s'est retrouvée un petit peu au Clermont Foot. Je t'avoue que j'étais pas très très fan et je sais pas pourquoi. Comment on peut faire pour être une bonne coach au milieu des hommes?
Je sais pas si c'est une question d'homme ou de femme. Moi, je me suis positionnée pendant très longtemps. Je ne veux pas entendre parler de ces histoires d'hommes et de femmes. Le vrai sujet, c'est qu'il y a des énergies qui sont très masculines et des énergies qui sont très féminines, avec une sensibilité, etc. Et qu'on retrouve les deux en chacun d'entre nous autour de la table. Et derrière, ça renvoie à quelle posture on prend. un moment, on a une paire de quoi que ce soit. Bah, c'est plutôt...
Basket.
Voilà. Mais c'est quelle posture on prend, qu'est-ce qu'on veut vraiment apporter aux autres. Et quand on est dans sa légitimité, quand on est juste dans sa posture, quand on est bon techniquement, à un moment, le vrai sujet, est-ce qu'on peut coacher une équipe d'hommes si on est une femme? Est-ce que c'est le problème de qui? Est-ce que c'est le problème des mecs? Est-ce que c'est le problème des nanas? Je crois qu'il y a que l'expérience, il y a tester, il y a sortir de ce qu'on a l'habitude de faire aussi. Et puis se dire, eh ben, on y va, on essaye, on y croit. On a une vision commune, oui ou non? Est-ce que c'est pas ça qui est le plus important? Et si on a une vision commune et que tout le monde entend dans la main, eh ben, on arrive à toucher la même chose, ben, il n'y a pas de raison. Donc je pense qu'une femme peut avoir sa place au milieu d'hommes, comme des hommes peuvent avoir leur place au milieu d'équipes féminines. Dans le sens, ça pourrait fonctionner aussi.
On va raccrocher, Bernard.
Oui,
on
je
laisse
suis là.
Le mot de la fin à Vanessa, oui. C'était parfait comme ça.
Bah écoute, très
merci
bien.
Merci à tous de votre présence. Et...
Voilà, moi...
Elle m'a cloué le bec.
D'accord, tu t'en remettras. Merci à toi, Xavier. Merci à tous tes invités. Et à bientôt sur les antennes, sur l'antenne. Dans quelques instants, c'est Jean-Pierre qui va prendre la suite de cette émission. Et
merci.
Donc, bonsoir à tout le monde. Merci.